Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Léla Silmani.
Bonjour.
Votre nouveau livre, Le Parfum des Fleurs, la nuit, est une commande, celle de l'éditrice Alina Gurdiel, qui poursuit son idée d'enfermer des écrivains une nuit entière dans un musée. Vous vous laissez convaincre, mais la Venise touristique et l'art contemporain exposé à la pointe de la douane où vous passez la nuit ne vous parlent pas beaucoup. Et pourtant, vous en avez fait un livre magnifique où vous vous livrez comme jamais. Ce n'est plus ma nuit au musée, c'est ma nuit avec moi-même, avec vos peurs et vos joies, peur du dehors, bonheur d'écrire et d'être enfermé pour écrire, souvenir d'enfance à jamais disparu et soudain ravivé par le parfum d'une plante, le galant de nuit. Il vous revient comment ce parfum ?
Ce parfum, c'est celui d'un arbre, donc galante de nuit, mesque al-arabi, qui est une plante tout à fait connue en Méditerranée.
C'est une sorte de jasmin. Hein.
Voilà, une sorte de jasmin qui était planté tout près de la porte d'entrée de ma maison à Rabat et qui était donc l'odeur qui m'accompagnait quand je sortais le soir lorsque j'étais adolescente. Donc évidemment, dès que j'ai senti cette odeur, c'était très proustien. Tout de suite, j'ai été transportée dans mon adolescence et sont arrivés les souvenirs du Maroc, de mes parents, de mon père. Voilà.
C'est là que tout vous revient, l'enfance. Et la question de l'enfermement, parce que vous avez été élevé, écrivez-vous, comme un animal d'intérieur.
Oui, j'ai été élevée comme un animal d'intérieur, de par le fait que j'étais une fille, par le fait que j'appartenais aussi à un milieu assez bourgeois, où on valorisait aussi le fait de rester à la maison, d'étudier, de lire. J'habitais très loin du centre-ville, il fallait vraiment beaucoup de temps pour arriver chez moi, donc une fois qu'on rentrait, ben, on ne ressortait plus. Et puis une fille, ce n'était pas fait pour traîner dans la rue, ce n'était pas fait pour flâner. Une fille, ça va d'un endroit à un autre, et puis ça rentre à la maison, parce que c'est plus en sécurité à la maison.
Oui, c'était surtout la conception de votre mère qui vous surprotégeait.
Absolument.
Et qui vous a transmis ses peurs.
Voilà, qui m'a transmis ses peurs, qui m'a transmis aussi le fait que je ne suis pas très débrouillarde. Comme je le dis dans le livre, je ne sais pas conduire, je ne sais pas faire de vélo, je n'ai jamais pratiqué de sport de ma vie. Je suis vraiment quelqu'un qui est fait pour être assis sur un canapé avec un livre ou regarder un film. C'est ce dans quoi je suis le plus qualifiée, à mon avis.
Ce parfum qui vous poursuit à Venise, ce galant de nuit, c'est l'odeur de mes mensonges, de mes amours d'adolescente, des cigarettes fumées en cachette, des fêtes interdites. Ce que vous reproduisez en partie d'ailleurs lors de cette nuit au musée en allant fumer en cachette dans les toilettes, Léla Silmani.
Oui, alors ça c'est mon grand problème, c'est la cigarette. Et j'associe en plus beaucoup la cigarette à l'enfermement, à l'écriture. Dès que je suis dans un truc, un moment d'introspection, j'ai besoin de fumer. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me retenir. Et j'ai fini par mettre ma tête dans la cuvette des toilettes et fumer en cachette dans le musée.
Bon, ce parfum évidemment et ces souvenirs, ça va bien au-delà. Vous dites avoir la mélancolie des sensations de votre enfance, dont vous avez d'ailleurs perdu toute trace, hein, photos et souvenirs égarés.
Oui, il n'y a plus rien. Quand mon père est mort dans la maison dans laquelle j'ai grandi, et 2 mois après sa mort, ma mère a déménagé, toutes les affaires ont disparu. Ce que j'explique dans le livre, c'est que ça a pu être un chagrin sur le moment, mais ça a été ensuite un très grand sentiment de soulagement. Et je crois qu'être capable de se délester d'un certain nombre de choses, en particulier de choses matérielles, finalement, c'est très, très libérateur. Donc je ne suis pas tellement attachée aux objets.
Ah.
Sauf les petites choses kitsch, enfin les choses bébêtes, des petits trucs qu'on garde comme ça, qu'on retrouve dans une poche.
Oui.
Mais si ça disparaît, je me dis ça disparaît. Et puis voilà, j'essaye de le retrouver. Puis si je le retrouve pas, j'en fais pas tout.
Ah oui, vous
histoire.
Avez essayé. Il y a quand même un peu de regret sous votre plume.
Ouais,
parce
essayé,
qu'on voit
bien
que vous auriez bien aimé remettre la main sur certains de ces
souvenirs. J'aurais aimé
remettre
la main sur ce que j'avais écrit et sur les photos, sur mes poèmes d'adolescente et stupidité, mais j'aurais aimé.
Et puis vous l'avez cité, il y a la figure de votre père, banquier condamné injustement comme tant d'autres notables au Maroc. Il a fait de la prison, il est mort l'année d'après sa libération. Pourquoi écrivez-vous que le destin de votre père a toujours pesé sur le vôtre ?
Pour moi, c'est une évidence parce que avec mon père, j'ai appris ce que c'était que l'échec, que la rumeur publique, que l'injustice. J'ai appris ce que c'était aussi la douleur de non seulement de l'injustice sociale, mais d'être traîné dans la boue et d'être l'objet de l'opprobre. Donc évidemment, ça a pesé sur moi socialement parce que j'étais la fille d'Othman Slimani, mais parce qu'ensuite j'ai eu un très très grand, une très grande révolte, une grande colère et peut-être l'envie aussi de le venger et de lui offrir ce que la vie n'avait pas pu lui offrir, que la réussite qui lui avait été arrachée, eh bien j'avais besoin, moi, de la conquérir.
Il m'a interdit, écrivez-vous, toute paresse, toute tiédeur.
Ah oui, à partir du moment où il a disparu dans cette dans ces circonstances dramatiques, il fallait que j'aie du panache. Il fallait... Parce que finalement, son destin, dans son aspect tragique, avait du panache. Mais je pense que mon père aurait voulu être écrivain, mon père aurait voulu être un intellectuel, il aurait voulu... Enfin, il a regretté de s'être rapproché trop près du pouvoir, de la politique. Et comme un moustique attiré par la lumière, il a été brûlé, finalement, sur l'ampoule sur laquelle il s'est collé. Donc, moi, j'ai essayé de lui offrir autre chose.
C'est quelqu'un qui lisait beaucoup, vous décrivez, vous souvenez de ces piles de livres entassés et qui lisait toujours au même endroit et qui était souvent enfermé dans sa maison à lire. Et puis vous vous souvenez aussi, vous avez l'image de lui emprisonné, enfermé également. Par mes histoires, écrivez-vous, j'essaie de regagner sa liberté, j'écris et je creuse un trou dans le mur d'une cellule, j'écris. Et chaque nuit, je lime les barreaux d'une prison. Leïla Slimani.
Oui, mon père est un homme qui a toujours été enfermé dans son intériorité, parce que c'était un homme silencieux, un homme mystérieux, enfermé derrière ce mur de livres. Et puis, j'y ai pensé l'autre jour, en fait, c'est un homme qui a vécu confiné pendant 10 ans, puisque mon père a perdu son travail lorsque j'avais 13 ans, et il a été incarcéré exactement 10 ans plus tard, sans avoir jamais pu retravailler. Il ne sortait pas parce qu'il avait honte. Il ne voulait pas croiser des gens dans la rue, il ne voulait pas qu'on le voie, il ne voulait pas voir le regard soit de pitié, soit de la acheté de jugement des autres, donc il ne sortait jamais. Et c'est vrai que cette image de mon père, c'est celle de l'immobilité, et en même temps, à travers la lecture, à travers les livres, que d'ailleurs il a réussi à transmettre ce goût aux gens avec qui il a été détenu. Quand il est sorti de prison, la première chose qu'il a dit, j'ai donné mes livres, j'ai partagé des histoires, je leur ai raconté des choses, et je pense qu'en pouvant leur raconter des choses, il leur a permis aussi des évasions momentanées. Et quand vous lisez, quand vous avez une vie intérieure, vous ne pouvez jamais être totalement enfermé. Il y a toujours une part de vous qui peut échapper, et ça, je pense que c'est extrêmement important de le cultiver.
Vous livrez un récit très, très profond, je parlais tout à l'heure d'introspection. Vous ne l'aviez pas prémédité avant de vous enfermer dans ce musée à Venise? C'est venu comme ça? C'est-à-dire que cette nuit a été une sorte de révélation?
Ah oui, c'est venu comme ça, ça s'est imposé. Et puis, une fois que je me suis mise à écrire, parce que j'avais un carnet avec moi, j'avais un carnet de notes, et très rapidement, je suis allée vers ce terrain de l'introspection. Ça m'a gênée au début, et je me suis dit, je déteste l'impudeur, moi, j'ai jamais fait d'autofiction, j'aime l'imagination, je suis vraiment romancière, c'est ça mon ADN. Donc, je me suis dit, mais en quoi ça peut intéresser les gens que je leur parle de moi? Et finalement, je me suis dit, le seul intérêt que ça peut avoir, c'est de raconter ce que c'est d'être écrivain. Et pourquoi, au fond, tout ce qui s'est passé dans notre vie nous ramène à ça, parce que l'écriture, ça n'est pas un métier, c'est une manière de vivre. C'est une passion dévorante qui vous occupe du moment où vous vous réveillez au moment où vous vous couchez.
Et pour vous, c'est une façon d'être heureuse.
Absolument.
Ce sont les derniers mots de votre livre.
Tout à fait.
J'aurais survécu sans être écrivain, mais je ne suis pas sûre que j'aurais été heureuse.
Oui, c'est un grand bonheur pour moi, l'écriture, parce que la joie de créer, c'est quelque chose d'extraordinaire et que je vis, je ne suis jamais seule, en fait. Je vis avec des personnages qui m'accompagnent, que j'aime profondément, que je comprends et qui me comprennent.
Tiens, à propos de personnages, il y a aussi la figure de Marilyn Monroe dans votre livre. Pourquoi elle? Leïla Slimani, c'est une figure féminine qui vous fascine et qui vous éloigne à la fois d'elle.
Marilyn Monroe, elle me touche immensément. Moi, je suis tombée amoureuse d'elle, j'avais 7-8 ans, je regarde les premiers films. D'abord, c'est la femme occidentale pour moi. C'est-à-dire, c'est vraiment la femme que je pourrais jamais être. Elle est blonde, on voit la moitié de ses seins, elle danse, elle est hyper maquillée, des bijoux partout. Donc, elle représente une femme que j'ai jamais rencontrée en vrai. Et puis, tout de suite, je perçois cette mélancolie chez elle. Il y a une phrase d'Arthur Miller qui, moi, me déchire le cœur. Il dit, Marilyn, c'est un petit poète qui a essayé de déclamer ses poèmes dans la rue pendant que la foule lui arrache ses vêtements. Et c'est vraiment ça pour moi, Marilyn Monroe. C'est une femme qu'on a enfermé dans son corps, qui est toujours lié à cette image de la prostituée, de la femme facile. Et donc, il y a cette mélancolie en elle qui, moi, me tord le cœur. Donc, c'est presque une amie pour moi. J'ai envie de la protéger. J'aime beaucoup Marilyn Monroe.
Elle est victime, de son apparence et de son attrait, et de l'attrait qu'elle exerce sur les hommes. Vous êtes pétri de contradictions, comme tout le monde, mais vous ne les cachez pas, vous les écrivez et vous dites même que vous pouvez changer d'avis sur telle chose ou telle autre. Voilà, comme sur votre identité ou vos identités, vous êtes souvent exprimé là-dessus, mais vous redites dans ce livre, on se revendique toujours étranger et on déteste en même temps que l'autre vous voit comme tel, on est de mauvaise foi. On est toujours de mauvaise foi.
Je pense que les gens de double culture sont souvent de mauvaise foi. C'est-à-dire que, c'est ce que je raconte dans le livre, si je suis par exemple en France et que quelqu'un commence à me dire « Ah, les Marocains, ce sont des misogynes, c'est très patriarcal, j'aime pas la façon dont ils se comportent avec les femmes », je vais avoir tendance à dire « Mais tu généralises, c'est n'importe quoi », et je vais me mettre en colère. Et si je suis au Maroc et qu'un Marocain me dit « Ah, nous sommes des gens vraiment très respectueux des femmes », je vais lui dire « Tu racontes n'importe quoi, c'est pas vrai du tout ». Donc je suis toujours un petit peu, voilà, j'ai toujours envie de défendre l'autre part de moi. J'ai envie à la fois d'être reconnue dans une forme d'étrangeté exotique quand je suis dans un lieu. En même temps, j'ai envie d'être reconnue comme un des leurs. Donc, je suis toujours de mauvaise foi, jamais à la bonne place.
Bon, et quand on ne vous parle pas de vos identités, ça vous va très bien aussi ?
Ça me va très très bien aussi. Quand on me parle d'être écrivain, c'est ce qui me va le mieux.
Et quand on parle de littérature et de langue française, dont vous dites à quel point elle est précieuse, c'est un joyau.
Ah oui, c'est une langue extraordinaire. Moi, bien sûr, on a beaucoup parlé de la langue française de son rapport à la colonisation, le fait qu'elle a été imposée. Mais en fait, c'est pas si vrai que ça. D'abord parce que la langue française, elle a été très très peu enseignée aux gens qui ont été colonisés. Donc ce fantasme de penser que les gens ont appris le français parce qu'ils ont été colonisés, c'est pas tellement vrai, parce qu'on n'a jamais enseigné très très peu enseigné le français. En fait, le français a souvent été enseigné après, au moment des indépendances, par les nationalistes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les jeunes États indépendants qui embrassent cette langue avec cette idée de on a réussi à battre les Français avec leur langue, avec leurs valeurs. Et moi j'aime bien cette idée de je vous prends ce butin et je l'utilise contre vous presque. Et pour moi cette langue, c'est une langue qui est plastique, c'est une langue qui se créolise, qui vit avec les autres langues. Moi j'adore les expressions là qu'on entend aujourd'hui, les jeunes qui disent « je t'ai mis le seum ». C'est quoi le seum ? Seum en arabe, c'est le poison. C'est une langue qui s'imprègne de toutes les autres langues. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, je défends vraiment la promotion du français, tout comme je pense qu'en France, on devrait apprendre plein de langues, dont l'arabe d'ailleurs, qui est une langue absolument magnifique. Qui n'est pas la langue des islamistes. Voilà.
Et il faut enseigner l'arabe.
Absolument.
Il faut l'apprendre. Merci beaucoup, Laïla Slimani. Le parfum des fleurs la nuit. Donc, dans cette collection Une nuit au musée, vous avez eu d'illustres prédécesseurs. On en a reçu ici beaucoup, comme El Taoud, entre autres. C'est chez Stock. Merci à vous.
Merci.